Chapitre 38. Silvio Benavides se tient debout sur la place de la cathédrale de Rouen. Cela fait longtemps qu'il n'est pas revenu à Rouen, presque un an. Avec son guide entre les mains, il se dit qu'on doit le prendre pour un touriste. Il s'en fiche. Il a rendez-vous avec le conservateur du musée des Beaux-Arts, un certain Achille Guillotin, dans une demi-heure. Mais il a pris soin d'arriver en avance, comme s'il voulait se préparer psychologiquement et se plonger dans l'ambiance impressionniste du vieux Rouen. Il se retourne vers l'office du tourisme et consulte sa brochure. C'est du premier étage de ce bâtiment que Claude Monet a peint la plupart de ses cathédrales de Rouen. Au total, 28 tableaux, tous différents selon l'heure de la journée ou le temps. L'office du tourisme était du temps de Monet un magasin de vêtements. Puis, bien avant, le premier monument Renaissance de Rouen, l'hôtel des finances. Silvio détaille son guide. Claude Monet a également peint la cathédrale sous d'autres angles, de diverses maisons de la place, dont certaines ont été détruites pendant la guerre, rue Grand-Pont ou rue du Gros-Horloge. L'inspecteur sourit en imaginant Claude Monet débarquant à l'aube avec son chevalet chez les particuliers endormis, ou s'installant toute la journée, pendant des mois, dans un salon d'essayage pour dames devant chaque fenêtre. Tout cela pour peindre près de 30 fois le même motif. On devait le prendre pour un fou. Les gens, au fond, admirent les fous. Silvio se retourne vers la cathédrale. Oui, les gens admirent la folie. Rien que cette cathédrale, l'admirer, c'est finalement reconnaître qu'il a eu raison, le type qui a imaginé un jour construire ce monument invraisemblable, même si cela devait prendre 500 ans. Ce dingue, qui a sans doute insisté pour que la flèche de sa cathédrale soit la plus haute de France, quitte à ce que quelques milliers d'ouvriers de plus y laissent leur peau. À l'époque, un tel chantier, ça devait être une boucherie. Mais on oublie. On finit toujours par oublier. On oublie la boucherie, on oublie la barbarie, et on admire la folie. L'inspecteur consulte sa montre. Il ne doit pas traîner s'il ne veut pas être en retard. Il a conservé ce réflexe d'écolier d'être toujours ponctuel. Il sort de la place de la cathédrale et passe sous les arcades de grands magasins. « Rue des Carmes », lit-il. Le musée est à gauche, d'après ce qu'il a compris. Il tourne dans une petite rue étroite bordée de maisons à colombages. Il a toujours eu du mal à se repérer dans le centre médiéval de Rouen. Cette ville lui donne l'impression d'être une sorte de labyrinthe imaginé par un type torturé. Tiens, peut-être le même qui voulait que sa cathédrale soit la plus haute. Difficulté supplémentaire, Silvio n'est pas très concentré sur sa route. Depuis qu'il est à Rouen, il n'arrête pas de penser que dans cette affaire Morval, il y a quelque chose qui cloche. Comme si quelqu'un tirait les ficelles de toute cette histoire. Un petit pousset machiavélique qui laisserait tomber des indices devant eux pour les attirer où ils le souhaitent. Qui ? Silvio parvient à la place du 19 avril 1944. Il hésite un instant, puis tourne brusquement à droite, juste au moment où une poussette maniée par une mère énergique le croise. La maman lui roule sur le pied sans ralentir pendant que l'inspecteur bredouille des excuses sans lâcher le fil de ses pensées. Qui ? Jacques Dupin ? Amadou Candy ? Stéphanie Dupin ? Patricia Morval ? Giverny est un petit village. Tous les Givernois le répètent. Les Givernois se connaissent tous. Et si tous protégeaient un secret ? Cet accident, par exemple, la noyade de ce garçon en 1937. Benavides en vient à imaginer les hypothèses les plus folles. Il en arrive même à se demander si son patron joue complètement franc-jeu avec lui. Lorraine Sérénac a parfois une façon étrange d'aborder toutes ces histoires de peinture. Silvio n'aime pas trop cette coïncidence. Le fait que son patron soit amateur de peinture au point d'afficher des tableaux dans son bureau, qu'il ait enquêté dans le milieu du trafic d'art avant d'être nommé à Vernon, et, comme par hasard, se trouve confronté au meurtre d'un collectionneur à Giverny. sans parler de cette obsession à vouloir tout coller sur le dos de Jacques Dupin pendant qu'il flirte avec sa femme. Il en a parlé à Béatrice, mais il ne sait pas pourquoi, sa femme adore Lorenz. Ils ne se sont vus qu'un soir pourtant, et encore. Silvio aperçoit devant lui un square bordant une place grise monumentale. Une dizaine de personnes attendent devant les marches. Il reconnaît l'entrée du musée des Beaux-Arts. Il hâte le pas sans cesser de réfléchir. Oui, Béatrice passe son temps à lui dire que Lorenz est un type charmant, intéressant, drôle. Elle a même ajouté un truc comme « pour un flic, il a une sensibilité étonnante, comme une sorte d'intuition féminine. » C'est peut-être pour cela, se raisonne Silvio, qu'il formule des réserves sur son chef. Comment Béatrice peut-elle apprécier un type comme Sérénac? Un type aussi différent de lui? Un type qui ne s'intéresse qu'à la peinture et aux filles avec lesquelles Morval couchait, ou voulait coucher. Benavides monte les marches du musée des Beaux-Arts. Et, sans qu'il sache pourquoi, une question revient et s'incruste dans son cerveau, comme une obsédante rengaine. Pourquoi les gens, au fond, admirent-ils les fous? Surtout les femmes. L'inspecteur Silvio Benavides attend dans le hall du musée des Beaux-Arts de Rouen depuis quelques minutes. Il s'y sent un peu écrasé par la hauteur des plafonds, la profondeur de la pièce, le lustre des immenses fresques. Soudain, comme surgi d'une trappe dans le marbre, un petit homme chauve couvert d'une blouse qui lui descend presque jusqu'aux chaussures se dirige vers lui et il lui tend la main. « Inspecteur Benavides, Achille Guillotin, conservateur du musée. Bien, on y va. Je crains de n'avoir que peu de temps à vous consacrer, d'autant plus que je n'ai rien compris à ce que vous voulez. » Une drôle de pensée traverse Silvio. Guillotin lui rappelle le professeur de dessin qu'il avait au collège, Jean Bardon, un prof qui, à 25 ans, en paraissait déjà 40. Ils ont la même taille, la même blouse, la même façon de lui parler. Pendant toute sa scolarité, bizarrement, Silvio s'est toujours retrouvé le bouc émissaire des profs, surtout de ceux qui n'avaient pas d'autorité. Il se dit qu'Achille Guillotin doit appartenir à la même caste, celle des petits chefs obséquieux devant l'autorité et tyranniques dès qu'ils rencontrent plus faibles qu'eux. Guillotin est déjà loin. Il grimpe l'escalier comme une souris grise. Silvio a l'impression qu'à chaque marche, il va poser le pied sur sa blouse trop longue et tout dévaler en sens inverse. « Bon, vous venez? C'est quoi cette histoire de meurtre ?» Benavides trottine derrière la blouse grise. « Un type assez riche, un ophtalmologiste de Giverny. Entre autres, il collectionnait les tableaux. Il s'intéressait particulièrement à Monet et aux Nymphéa. C'est peut-être même le mobile du crime. Et alors ? Et alors, j'aimerais simplement en savoir davantage. Et vous n'avez personne de compétent dans la police ? Si, l'inspecteur qui coordonne l'enquête a été formé à la police de l'art, mais... » Guillotin l'écoute comme s'il venait de proférer la pire des hérésies. « Mais ?»« Mais je voudrais me faire une idée par moi-même. » Il est difficile de distinguer si Guillotin soupire ou souffle en parvenant sur le palier. « Si vous le dites, qu'est-ce que vous voulez apprendre ?»« On peut commencer par les Nymphéa, si vous voulez. J'aimerais savoir combien Monet en a peint. 20, 30, 50 ?»« 50 !» Achille Guillotin a combiné un cri d'horreur avec un rire sardonique, un son que seules les hyènes doivent être capables de produire. S'il avait une règle en fer entre les mains, ce serait pour en punir les doigts de l'ignare inspecteur. Tous les sévères portraits de la salle Renaissance semblent se tourner vers Silvio pour le couvrir d'une honte suprême. Silvio baisse malgré lui le visage, pendant qu'Achille Guillotin hausse les épaules de dépit. L'inspecteur Benavides remarque à l'occasion qu'il porte d'étranges chaussettes oranges. « Vous vous moquez du monde, inspecteur. 50 Nymphéa. Sachez que les spécialistes ont recensé pas moins de 272 Nymphéa peints par Claude Monet. Silvio roule des yeux stupéfaits.
On peut aussi chiffrer en mètres, si cela vous parle davantage. Monet a peint environ 200 mètres carrés de nymphéa pour une commande nationale à la fin de la Première Guerre mondiale, exposée à l'Orangerie. Mais si l'on additionne toutes les œuvres que Monet n'a pas retenues, celles qu'il a peintes à moitié aveugle lorsqu'il souffrait de la cataracte, les experts parviennent à plus de 140 mètres carrés de nymphéa en trop, exposés aux quatre coins du monde. New York, Zurich, Londres, Tokyo, Munich, Canberra, San Francisco, j'en passe, croyez-moi. Sans parler d'au moins une centaine de nymphéa qui appartiennent à des collections privées.
Silvio évite tout commentaire. Il se dit qu'il doit avoir l'air idiot d'un gamin à qui on apprend que derrière la vague qui vient lécher ses pieds sur la plage, il y a l'océan. Guillotin continue de cavaler à travers les couloirs. À chaque fois qu'il entre dans une salle, les gardiens assoupis, dans un mouvement de panique, se figent au garde-à-vous. L'Europe baroque succède au grand siècle.
Les nymphéa, continue Achille Guillotin sans souffler, sont une collection très étrange, sans autre équivalent au monde. Au cours des 27 dernières années de sa vie, Claude Monet n'a peint que cela, son étang de nénuphars. Progressivement, il éliminera tout le décor autour, le pont japonais, les branches de saule, le ciel, pour se concentrer uniquement sur les feuilles, l'eau, la lumière. L'épure la plus absolue. Les dernières toiles, quelques mois avant sa mort, touchent à l'abstraction, juste des taches. Du tachisme, disent les experts. On n'avait jamais vu ça. Personne ne comprendra du temps de Monet. Tout le monde prendra cela pour une lubie de vieillard. Quand il meurt, on colle aux oubliettes les nymphéa du vieux Monet, surtout les derniers. Du pur délire, croit-on.
Silvio n'a pas le temps de demander ce que Guillotin entend par oubliette. Le conservateur continue intarissable.
Sauf qu'une génération plus tard, ce sont ces dernières toiles qui donneront naissance aux États-Unis à ce que le monde va appeler l'art abstrait. C'est cela, le testament du père de l'impressionnisme, l'invention de la modernité. Vous connaissez Jackson Pollock ?
Silvio n'ose pas dire non, n'ose pas dire oui non plus.
Guillotin lâche un soupir de prof blasé. Tant pis pour vous. C'est un abstrait. Pollock et les autres puiseront leur inspiration dans les nymphéa de Monet. Tout. C'est pareil en France. Vous avez retenu ce que je vous ai dit, j'espère. Les plus grands nymphéa sont exposés au musée de l'Orangerie, la chapelle Sixtine de l'impressionnisme, offert par Monet à l'État français en l'honneur de l'armistice de 1918. Et ce n'est pas tout. Si vous pensez au lieu où les nymphéa sont exposés, il y a autre chose de fabuleux.
Ah ! Silvio n'a rien trouvé de plus intelligent à dire. Guillotin s'en fiche.
Les nymphéa trônent sur l'axe triomphal. L'axe majeur qui passe par Notre-Dame, le Louvre, les Tuileries, la Concorde, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, l'Arche de la Défense. Les nymphéa derrière les murs de l'Orangerie s'alignent exactement sur cet axe qui symbolise toute l'histoire de la France, qui s'étend de l'Est vers l'Ouest en suivant la course du soleil. Et, comme par hasard, Monet a peint l'étang aux nymphéa à différents moments de la journée, du matin au soir, en exposant lui aussi la course éternelle du soleil. La course des astres, l'histoire triomphale de la France, la révolution de l'art moderne. Vous comprenez maintenant pourquoi le moindre centimètre carré de ces nénuphars vaut une fortune. Ce fut le tournant de l'art moderne. En Normandie, à quelques kilomètres de Vernon, dans un petit étang de rien du tout. Le seul et unique motif du travail obsessionnel pendant près de 30 ans du plus grand génie de la peinture.
Dans les tableaux grand siècle, les étoffes des saintes, reines et duchesses semblent s'envoler comme agitées par le lyrisme du conservateur.
Quand vous dites une fortune, vous entendez quoi au juste ?
Guillotin, comme s'il n'avait pas entendu, s'avance dans la pièce et ouvre la fenêtre. Benavides n'a pas bougé.
« Bon, vous venez ?»
Si Silvio comprend qu'il doit suivre le conservateur au salon.
Je vais vous donner une idée de ce que vaut un nymphéa. Si on se fie aux dernières ventes aux enchères, à Londres ou à New York. Tenez, par exemple. Vous voyez les immeubles haussmanniens juste en face, le long de la rue Jeanne d'Arc? Eh bien, disons qu'un nymphéa de Monet, de proportion normale, mettons 1 mètre carré, cela correspondrait, allez, au bas mot, à une bonne centaine d'appartements. À raison de 4 étages par porte d'entrée, ça représente déjà une bonne portion de la rue.
100 appartements? Vous plaisantez?
Non, je crois que j'aurais pu dire le double sans exagérer. Vous voyez toujours la rue Jeanne d'Arc, les véhicules qui attendent au feu. Je peux aussi vous l'estimer ainsi. Une toile pourrait valoir, disons, selon les dernières ventes, entre 1 000 et 2 000 voitures, neuves, j'entends. Ou bien, je ne sais pas, à peu près la totalité du contenu des boutiques des rues du Gros Horloge, Jeanne d'Arc et de la République réunie. C'est inestimable, en réalité, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Vous vous rendez compte? Un nymphéa.
Vous vous moquez de moi?
Le dernier Monet mis aux enchères à la Maison Christie's à Londres a dû partir à 25 millions de livres. Et c'était une œuvre de jeunesse. 25 millions de livres. Allez-y, convertissez en appartement ou en voiture.
Silvio n'a pas le temps de se remettre. Le conservateur a déjà grimpé un nouvel étage et parvient aux salles impressionnistes. Pissarro, Sisley, Renoir, Caillebotte et Monet, bien entendu. La fameuse rue Saint-Denis sous une pluie de drapeaux tricolores. La cathédrale de Rouen par temps gris. Benavides bredouille.
Et il en reste sur le marché des nymphéas?
Comment ça, sur le marché?
Ben, dans la nature,
précise l'inspecteur d'une voix timide.
Dans la nature? Ça veut dire quoi, dans la nature? Vous ne pouvez pas être plus précis que ça dans la police? Vous vous demandez si un tableau de Monet pourrait traîner quelque part? C'est bien cela? Oublié? Dans un grenier de Giverny ou dans une cave? Vous vous dites qu'on pourrait tuer, sans aucun doute, pour une telle découverte, pour une telle fortune? Alors, inspecteur, écoutez bien ce que je vais vous dire.